Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Sur la couverture, une moitié de visage, celui de la tueuse en série. Une blonde platine qui écume les salons professionnels à la recherche de ses proies, des hommes bedonnants et fortunés, incarnation totémique de la domination pécuniaire et patriarcale. La tueuse, c'est Dolores. Son nom s'inscrit en lettres noires sur fond blanc sur la pancarte qu'elle tient et sur laquelle elle nous offre une alternative, Dolores ou le ventre des chiens. Et son regard noir ne nous laisse pas d'autre choix que de choisir. Dolores ou le ventre des chiens, c'est le titre de ce roman noir à la couverture rose, mais qui est aussi un roman gris, la grisaille du ciel de Paris, des montagnes des Alpes, des murs de la prison, le gris de la tristesse, celle de ce psychiatre alcoolique et cocaïnomane, qui est l'autre protagoniste majeur de ce récit qui nous parle de justice et de vengeance, d'héroïsme et de lâcheté, de petites gens et de grandes causes. Le nouveau roman d'Alexandre Civico est paru chez Actes Sud, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Alexandre Civico.
Bonjour Jean-François Cadet.
Merci d'être avec nous. Ce qui est toujours fascinant dans les romans noirs, c'est la façon dont un écrivain installe une tension dramatique, et en l'occurrence cette atmosphère de grisaille, cette atmosphère glaciale, d'une tristesse abyssale même parfois, et vous avez choisi de le faire à travers deux voix. Deux narrateurs qui alternent dans de courts chapitres, tous écrits à la première personne. La première narratrice, c'est la femme, la tueuse en série, Dolores. Le deuxième narrateur, c'est l'homme, c'est le psychiatre, c'est Antoine. Pourquoi ce choix de l'alternance ?
Parce que ces deux personnages portent deux discours qui sont probablement les deux faces d'un même discours, mais ça on s'en aperçoit en lisant le livre, et qu'il fallait que les deux voix soient égales. C'est-à-dire que, contrairement à ce que dit le titre, il ne fallait pas que moi, l'auteur, je choisisse entre l'un ou l'autre.
Donc il fallait que vous offriez aussi, même dans la construction même du livre, les deux faces de l'alternative.
Absolument, que les deux aient le même espace. Absolument.
Donc d'un bout à l'autre, hein, l'histoire est racontée à travers ces deux voix, par des regards croisés. Et l'autre ressort de votre mécanique romanesque, c'est la brièveté. Le roman est court, les chapitres sont courts. Les phrases sont courtes, même si parfois elles forment de longs paragraphes. C'est une contrainte, la concision que vous vous êtes donnée ?
Non, mais il n'aura pas échappé que vous qui me voyez, que je suis moi-même assez court.
Oui, certes, mais enfin, à la radio, ça ne se voit pas. Mais bon, voilà.
Non, ce n'est pas une contrainte. C'est lié au processus d'écriture. Je pense que y a une forme d'urgence dans ce que j'écris, en tout cas dans ma manière de l'écrire, dans mon... la manière dont ça sort, et que donc ça ne peut pas passer par des très longues descriptions, ça ne peut pas passer par des circonvolutions. L'urgence demande d'aller au plus direct, disons.
Et donc c'est vraiment votre processus de création littéraire, c'est pas l'idée du romancier que vous êtes de rendre le roman plus haletant, de donner une force supplémentaire à travers cette concision ?
Alors je crois quand même que ça donne une force.
Ah oui, ça, je vous confirme. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Et puis, je pense que c'est aussi, on y reviendra peut-être, inhérent au genre du roman noir, qui a cette tendance comme ça à travailler sur le rythme. Mais effectivement, je crois que je ne saurais pas écrire autrement. J'essaierai peut-être un jour et je vous dirai, mais là, pour le moment, c'est comme ça que ça se passe.
Mais beaucoup d'écrivains écrivent large et ensuite coupent, élaguent, raccourcissent, raturent, donnent de grands coups de gomme comme ça. Vous êtes comme ça ? Ou bien votre écriture est naturellement concise, naturellement à l'os comme ça ?
Elle est naturellement concise et naturellement à l'os. C'est une vraie chance. Comment ?
C'est une vraie chance. On souffre moins quand on n'élague pas un texte, j'imagine.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en revanche, le texte sortant comme ça, je n'ai pas besoin de le couper. Et après, on aimerait aussi pouvoir parfois étoffer un peu, mais ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore faire.
Mais ce n'est pas indispensable, en tout cas, pour ce qui concerne ce livre. Alors, les chutes de chapitres sont particulièrement soignées, un peu d'ailleurs comme un recueil de nouvelles, parce que quand on le feuillette comme ça, on peut se dire, tiens, c'est un recueil de nouvelles. Les chutes de chapitres sont importantes, pas toujours la toute dernière phrase, d'ailleurs. Parfois, c'est l'avant-dernière qui claque un peu comme une punchline ou comme un cliffhanger, hein, qui donne envie de tourner la page et de s'engouffrer dans le chapitre suivant. Les attaques de chapitres sont pas mal non plus. D'ailleurs, le roman commence par une série de coups. Nous sommes à la page 11.
Des poings contre la porte, des poings d'hommes, des poings fermés, des poings si serrés que les jointures devaient en être devenues blanches, que ça devait craquer comme des noix sous des bottes, des poings de colère. Ça criait. J'entendais à peine ce que ça disait. Le son était ouaté, presque onctueux. Pourtant ça criait. Pourtant ça hurlait. Puis ça s'est arrêté. Ça a grogné, discuté, frappé à nouveau du plat de la main, et des pas lourds ont dévalé l'escalier, le bruit s'atténuant à mesure qu'il s'éloignait. Un peu de silence, enfin. J'étais assise dans cette mare humide et rouge, collante. Je continuais à caresser doucement sa tête comme une mère qui ne pourrait se détacher de son enfant mort-né. Rien qui vienne me traverser l'esprit. Pas un mot, pas une sensation. Je n'étais que cette main flattant une chevelure éparse. Du temps a passé, mais je ne sais pas combien. Et puis c'est revenu. Les mêmes paroles, les mêmes voix qui se diffusaient doucement dans mes tympans, mais qui ne parvenaient pas à construire un sens. Une suite de phonèmes que je ne rattachais pas entre eux. Soudain, il y a eu un coup assourdissant, énorme, brutal. Suivi d'un deuxième. La porte a volé en éclats. Je n'ai pas levé la tête. J'ai vu leurs chaussures, des brodequins noirs et luisants. Quatre paires qui se sont précipités dans la pièce. C'est elle, c'est sûr que c'est elle. J'ai entendu un appareil de transmission. Ça crachait. Il a dit « Je crois que c'est elle, je crois qu'on l'a ». Il s'est adressé à deux des paires de brodequins luisants. « Vous restez là, vous appelez une ambulance et vous sécurisez. » Il a sorti des menottes, m'a demandé de tendre les mains. Je les ai avancées, jointes, comme une prière. Il m'a relevé, a attrapé le manteau qui se trouvait dans l'entrée, l'a posé sur mes épaules. On l'emmène, les gars.
Et si les policiers arrêtent ainsi Dolores, puisque c'est d'elle dont il s'agit, Alexandre Civico, et l'emmènent en prison, c'est parce que Dolores a tué, et pas qu'une fois, mais ça on le sait pas tout de suite. Hein. Les informations, vous les distillez vraiment au compte-gouttes hein, tout au long de ce premier et de ce deuxième chapitre. Alors on comprend qu'on est à Lyon, qu'on l'emmène dans un centre de détention dans les Alpes. On comprend que pour les policiers, ce n'est pas une cliente ordinaire, puisqu'il l'emmène directement à la casse-prison sans passer par le commissariat et donc sans garde à vue ni déferment. C'est pas la seule entorse d'ailleurs au système judiciaire tel qu'il existe dans la France d'aujourd'hui. On apprend même qu'il y a des lois qui ont renié l'indépendance de la justice, avec moins de transparence, plus de liens avec l'exécutif, que des restrictions, ça on l'apprend un peu plus tard dans le roman, ont aussi été prises contre les chômeurs. On est dans une société plus à droite que la société française actuelle, Alexandre Civico.
Oui, j'ai envie de dire à peine plus. C'est-à-dire que pour... sans doute pour créer une ambiance peut-être encore un petit peu plus oppressante. J'ai poussé le curseur, mais vraiment de manière très légèrement.
Mais on se dit, Ali, à vous lire, que ce roman, c'est une forme de mise en garde, justement, contre une dérive droitière, certains diraient une dérive plus autoritaire de la société, et singulièrement de l'appareil judiciaire.
Alors, moi, je ne le vois pas comme une mise en garde, mais plutôt presque comme un constat de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que le roman le montre, j'ai probablement une manière de penser les choses un peu pessimiste ou un peu défaitiste. Et je ne mets pas en garde, je dis, il est probable, si on laisse les choses glisser comme ça lentement, comme on le fait depuis maintenant très très longtemps, eh ben on en arrivera là et puis on en arrivera peut-être plus loin et encore plus loin, toujours plus loin.
On tient en tout cas à sauvegarder les apparences démocratiques. C'est en tout cas ce que pense le second narrateur, Antoine, qui explique, je cite, « On tenait à garder le vernis, une fine trécouche de glace démocratique prête à se briser à tout moment, qui recouvrait un océan d'autorité et jeter ce vernis, dit-il. » Et c'est vrai qu'Antoine Petit a une bonne tête de vernis. On en parle dans un instant.
Et si par hasard,
Dopamoun et Francesca Blanchard sur RFI, extrait de la playlist de ce mois de mars dans VMDN, la playlist RFI bien sûr, VMDN avec Alexandre Civico pour son roman Dolorès sous le ventre des chiens paru chez Actes Sud. Quand elle est entrée dans la pièce, elle a tout aspiré. C'est comme cela qu'un de vos deux narrateurs, Antoine Petit, psychiatre de son état, se souvient, Alexandre Civico, de sa première rencontre avec Dolorès. Alors Dolorès, on ne l'a pas encore dit, elle s'appelle en fait Dolorès Leal Mayor. Rien que ce nom, déjà. Dolorès Leal Mayor, c'est un nom qui claque, c'est un nom qui explose. Il résonne donc la douleur, Dolorès, Leal la loyauté, Mayor la grandeur. Alors que le psy, lui, c'est Antoine Petit. Et d'Antoine Petit en France, il y en a quand même plus qu'un, c'est le moins qu'on puisse dire, il y en a à l'appel. C'était important pour vous de marquer comme ça, même dans l'identité de vos deux personnages, ce contraste incroyable entre les deux ?
Oui, oui, c'est vraiment devenu venu comme ça, presque comme... Il y a presque une dimension comique là-dedans. Il y a un tel écart entre les deux personnages qui marquait, voilà, bon, Dolorès, et on en parlera, est un personnage qui est quand même assez flamboyant. Antoine est plutôt l'inverse, et je trouvais ça amusant de leur donner comme ça des noms qui définissent aussi clairement leur caractère.
Ouais, alors c'est vrai qu'au premier abord, Antoine peut sembler assez insignifiant. En plus, il est d'une tristesse infinie, même d'une tristesse d'égout. Alors j'adore cette expression, elle vous est venue aussi facilement, là, le mystère de l'écriture.
Exactement, elle est venue comme ça. Oui.
Bon, tristesse d'égout, on se dit, c'est vrai qu'il n'est pas loin de toucher le fond. Il est dépressif, il est alcoolique, il est cocaïnomane. Sa relation de couple, il en a une, mais elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Bref, il ne va pas bien du tout. Et par-dessus le marché, son métier, c'est de s'occuper des gens qui vont très mal, puisqu'il est psychiatre. Un psychiatre qui va bien, ça valait pas le coup. C'était pas crédible ?
Non, c'était... Enfin, si, c'était crédible.
Ça existe quand même, des psychiatres qui vont bien, j'espère.
Que...
Oui.
Je crois que ça existe. Non, c'était que... Je pouvais pas... Un psychiatre qui va bien... c'est un psychiatre qui est dans le système. C'est un psychiatre qui est... Donc, fait partie des dominants. Et je ne pouvais pas laisser Antoine être complètement un dominant. C'était un autre livre. Si je mettais vraiment en face quelqu'un qui assumait la domination et cette Dolorès. Là, c'est quand même un homme qui doute. Ben, il ne goûte pas, il doute.
Oui.
C'est un homme qui est en effet extrêmement malheureux, qui est complètement fracturé.
Un homme dépendant aussi.
Évidemment dépendant.
Il y a plus fort que lui.
Il y a plus fort que... Mais tout est plus fort qu'Antoine. La vie autour d'Antoine est plus forte qu'Antoine. Et finalement, il s'est complètement résigné à ça. Et donc, ça permettait que... Alors, on ne peut pas vraiment parler de rencontre, mais en tout cas, qu'il puisse se laisser égratigner par le personnage de Dolorès, qu'elle, d'une manière ou d'une autre, elle parvienne à un moment à le toucher. Pardon.
Et donc, dans sa grisaille quotidienne, Antoine est désigné pour s'occuper de cette fameuse Dolorès Leal Mayor, la tueuse en série présumée dont parle toute la France, hein, parce que c'est une star, en quelque sorte, hein, Dolorès. Alors, il se dit, c'est pas possible, j'ai un tout petit psychiatre, c'est quand même incroyable que cet honneur lui incombe. Et il comprend très vite qu'on ne l'a pas choisi pour ses qualités, mais plus pour ses faiblesses. Parce que justement, avec tout son passé qu'on vient de décrire, toutes ses difficultés personnelles, eh bien, on a un moyen de faire pression sur lui. Et on lui dit très clairement, le juge lui dit très clairement, Alexandre Civico, il ne doit pas y avoir de procès. Donc, il faut que vous écriviez dans votre rapport que Dolorès n'est pas responsable de ses actes. Et donc, qu'elle est folle. On peut expliquer pour quelle raison, Alexandre Civico ?
Assez simplement. Alors, je voulais juste préciser qu'en plus, Antoine Petit est repéré parce qu'il a écrit une thèse sur la schizophrénie torpide qui sévissait dans la psychiatrie soviétique, donc une schizophrénie sans symptômes qu'ont inventé les psychiatres soviétiques. Je ne sais plus ce que je disais, ça y est, je suis perdu.
Oui, pour quelle raison est-ce que les autorités judiciaires veulent éviter un procès ?
Tout simplement parce que Dolorès est devenue une icône auprès de très nombreuses femmes qui se sont mises à l'imiter, elles aussi à tuer des hommes de pouvoir, disons. Que cette épidémie ne cesse pas. Et finalement, un procès donnerait une tribune à Dolorès, en ferait probablement une martyre ou une passionnaria, et donc la rendre folle résoudrait tout ça.
Alors c'est vrai qu'elle est devenue, sans l'avoir voulu d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de revendication à ce niveau-là, elle est presque devenue à son corps défendant un symbole de la vengeance des femmes contre les violeurs, les harceleurs, tous ceux qui maltraitent la gente féminine, en particulier ceux qui mataient sa plastique quand elle était hôtesse d'accueil dans des grands salons professionnels, ces hommes bedonnants, pleins de fric, ces ploucs à Rolex, comme elle le dit. L'un d'entre eux a d'ailleurs été sa première victime. Nous sommes à la page 48 de votre roman « Dolorès se souvient ».
Il était PDG d'une très grosse entreprise et possédait ce visage rond et luisant des jouisseurs chez qui le ventre est l'écrin de l'âme. Son argent achetait tout. Il le savait. Il aimait ça. Il concevait le monde comme un bordel à ciel ouvert. Dans ses yeux, les humains, les objets, les sentiments étaient des putes aux tarifs divers. J'étais une pute à prix raisonnable. Un repas suffirait. Il m'a emmenée dans un restaurant faussement chic. Pas par radinerie, simplement parce que je ne valais pas plus. Parce qu'une fille comme moi n'aurait pas su apprécier le vrai luxe. Il a dû penser que je serais plus à l'aise dans un environnement vulgaire. Vulgaire les assiettes enfroufroutées de volutes inutiles et sans goût. Vulgaire l'ostentation avec laquelle il a choisi le vin. Vulgaire les serveurs qui se permettaient une familiarité à peine correcte. Il a parlé de lui toute la soirée, de son travail, de ses déplacements. C'est du nombril qu'il parlait, de l'orifice de son gros ventre satisfait et engloutisseur de bouffe, engloutisseur de la transpiration des hommes et des femmes qu'il faisait travailler pour avoir le privilège d'arborer une pute comme moi dans un restaurant sans étoiles. Le dîner a été gentiment médiocre à tout point de vue. Conversation, nourriture, vin, décor. Si j'avais été plus jeune, peut-être se serait-il donné plus de mal. La suite lui apparaissait comme une évidence. Il allait me baiser puisqu'il avait payé. Je l'ai suivi dans la chambre de son palace. Hôtel monumental, dorure et bois sombres, marbre et chandeliers en cristal surplombant la tête de client fortuné. Il est monté le premier. J'ai suivi, quelques minutes plus tard, sous le regard goguenard d'employés en livrée, habitués à voir circuler les prostituées ou les coups d'un soir. J'ai pris l'ascenseur, défilé dans le couloir à l'épaisse moquette grise avant de toquer à la porte de sa chambre. Il avait eu le temps de se mettre à l'aise. Il m'a prié d'entrer en me disant qu'il faisait couler un bain, que sans doute j'avais envie de l'y accompagner, avec un petit rire égrillard. Je l'ai suivi. Il a fait tomber son peignoir. Ses grosses fesses flappies ressemblaient aux larges bajoux d'un basset. Il s'est glissé dans l'immense baignoire et s'est mis à doucement se caresser, son regard vrillant, m'invitant. J'ai longuement contemplé mon visage dans la glace. Mon maquillage n'avait pas bougé. J'ai fait un pas en arrière, redressé mon buste. J'étais belle. Un sèche-cheveux était accroché au côté du lavabo. On aurait cru un ancien téléphone avec ce fil extensible caractéristique. Je l'ai décroché, l'ai allumé, l'ai jeté dans la baignoire.
Voilà, scène de meurtre, scène du premier meurtre de Dolores Alexandre Civico. Déjà, le mode opératoire, le coup du sèche-cheveux dans l'eau de la baignoire, comment est-ce qu'un romancier comme vous choisit ses armes de crime ?
Alors ça, je pense que j'ai dû le piquer dans un film quelconque. Je trouvais l'idée assez merveilleuse parce que finalement, ce meurtre n'est pas prémédité, c'est une inspiration du moment de Dolores.
Une pulsion.
Une pulsion. Et puis, il y a cet aspect comme ça un peu... Il y avait quelque chose d'un peu ridicule, de très simple. Elle fait ce geste de manière presque... négligente, enfin, il y a quelque chose un peu comme ça.
Il y a un côté méprisant finalement dans la façon d'opérer.
Tout à fait. Et le sèche-cheveux permettait ça.
Tu vaux pas mieux.
Exactement. Il n'y a presque pas de violence en fait dans ce meurtre, puisqu'on passe par ce sèche-cheveux qui est un objet du quotidien, quoi.
Oui, et quelques pages plus loin, Dolores ajoute « La mort du premier avait ouvert une soif que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. » Et encore un peu plus loin, « J'en ai tué un autre, puis un autre. » Un débordement, le reflux d'un cloaque, encore un peu plus loin, une ivresse. Bref, la mécanique du crime s'enclenche à ce moment-là, avec un ressort de vengeance féministe, mais plus encore peut-être un ressort de vengeance sociale. Alexandre Civico, elle punit les hommes, mais elle punit les hommes riches, les hommes de pouvoir, ou en tout cas les hommes qui lui apparaissent comme tels.
Oui, elle punit les puissants, en fait. Alors Dolores a relativement peu de revendications, finalement, dans le livre. Elle n'a pas un discours politique qui est vraiment construit. Enfin, elle n'a pas théorisé ce qu'elle est en train de faire. C'est presque... ce sont des meurtres réflexes, presque, j'ai envie de dire. Mais effectivement, c'est le pouvoir qu'elle punit, c'est la puissance qu'elle punit. Et la puissance est évidemment un peu, dans la société, représentée par ces hommes de pouvoir, ces hommes qui ont d'argent.
Avec un ventre bedonnant, proéminent, je ne me suis pas senti visé, mais quand même, qu'est-ce que vous avez contre les gens qui ont un peu de ventre, Alexandre Civico ?
Absolument.
Enfin, c'est pas vous, c'est Dolores.
Absolument rien, c'était... disons qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la métaphore. On m'a fait remarquer, d'ailleurs, très récemment, et que je dois être d'un autre temps, que finalement, aujourd'hui, le pouvoir est très fringant quand on regarde le Premier ministre ou notre président de la République ou le patron de LVMH sont des hommes extrêmement minces avec des costumes cintrés.
Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la République.
Absolument. Et donc, effectivement, il y avait quelque chose de la métaphore et du symbole, oui.
Voilà, vous êtes des salauds à la panse ronde et satisfaites, le ventre des chiens. Et là, ça fait évidemment tilt avec le titre du roman, « Le ventre des chiens ou leur bite ». C'est la même chose, dit Dolores en parlant des hommes. Et en épigraphe du livre, vous avez choisi une citation du marquis de Sade, excusez du peu. « Il n'est point d'homme qui ne veuille être despote quand il bande ». C'est une phrase issue de son célèbre livre « La philosophie dans le boudoir ». Vous la reprendriez à votre compte, cette phrase ?
Ah ben totalement, oui. C'est presque ce que dit le livre, finalement. Et c'était peut-être même le thème de départ du livre. Je construis souvent, mes livres sont construits d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai d'abord une espèce de grand thème et puis ensuite vient s'y apposer une histoire. Et finalement, dans cette phrase qui est parfaite de concrétion, de concision, il y a à la fois la politique, le pouvoir tyrannique, donc le despote, et la sexualité, et tout ça est mis dans une espèce d'équation que je reprendrai. Alors évidemment, on ne peut pas mettre des signes égales partout, mais que je reprendrai complètement à mon compte. Enfin, en tout cas, sur le livre, oui, c'est totalement ça.
Chata chata, feste walk any traka traka gun salut en dit dans quelle mitraillette aka combien bad gal d'après yo mais aïe yo paka paka maka coûte den sol depuis à l'époque chaba chaba. Princesse, chouti, ou vest, cousine, ou la capale en dôme MS ou clean, en cas manger sa déter qu'on se sait, poudine, essayez test, mais c'est concis ou test, poudine, bad babi, moi et puis combien cardi, money pour le bad DJ, arri mette sa magie, ou filme mon kaba qui top mette yon les IG, veillez non mon poumon pas baile. Sexy girl kaba qui top, bad man kaba si top, DJ a ka drive up, platine l'an qu'on pilote, ballon man kaba ili, ballon man kaba ili, mais c'est qu'à tout dire en bas on wind up. Sexy girl kaba qui top, bad man kaba si top, DJ a ka drive up, platine l'an qu'on pilote, ballon man kaba ili, ballon man kaba ili, mais c'est qu'à tout dire en bas on wind up.
Chata chata, make money, give me plata plata, look at me.
Who am I?
Queen mada mada, I'm bad bada bada, I'm mad mada mada. Jalis ton dada dada.
L'année combien t'y bonbons qu'a back it up? L'année combien t'y bonbons qu'a back it up? L'année combien t'y bonbons? L'année combien t'y bonbons? L'année combien t'y bonbons qu'a back it up? Sexy girl qu'a back it up, bad man qu'a buzz it up. DJ qu'a drive up, platine l'en con pilote. Ballon man qu'a baili, ballon man qu'a baili. Mais c'est qu'a tout dit en bas on wind up. Sexy girl qu'a back it up, bad man qu'a buzz it up. DJ qu'a drive up, platine l'en con pilote. Ballon man qu'a baili, ballon man qu'a baili. Mais c'est qu'a tout dit en bas on wind up.
Chata chata, fais tes walk and it's traka traka. Combien bad girl t'as pris au méanien, yo paka paka. Bad Barbie, moi et puis combien cardi.
Bad Barbie, Jalis, dans la playlist RFI et dans VMDN avec Alexandre Civico pour son roman Dolores sous le ventre des chiens chez Actes Sud. Alors on en parlait très brièvement tout à l'heure et je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Une grande partie du livre se passe en prison. Vous êtes extrêmement précis, je trouve, dans la description de la vie en milieu carcéral. Il y a l'arrivée de Dolores derrière les barreaux, le paquetage, le détecteur de métaux, les grilles qu'on ouvre et qu'on referme, les promenades, les alarmes portatives pour les visiteurs qu'ils peuvent actionner en cas de problème. Il y a les trafics à l'intérieur de la prison, mais aussi les trafics avec l'extérieur, par-dessus le mur. On entend dans le roman les cris la nuit, mais il y a aussi des moments de rire, de complicité entre Dolores et sa camarade de cellule. Est-ce que vous êtes rendu en prison pour écrire ce roman? Est-ce que vous avez été en contact avec des détenus?
Oui, absolument. Et j'allais dire, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance, cette opportunité d'entamer un travail avec des détenus dans une prison dans les Alpes. Un travail au long cours d'écriture collective. Et la direction de la prison m'a autorisé à tout visiter, ce qui est assez rare. Enfin, j'ai croisé d'autres intervenants en prison qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu cette opportunité-là. Donc, j'ai vraiment visité tous les services de la prison. J'ai vu tous les lieux. Je suis même allé, ce qui est assez drôle, je suis allé visiter le fameux mitard que les personnes avec qui je travaillais, elles, ne connaissaient pas. Donc voilà, ça c'est pour les lieux, c'est pour le décor, c'est pour les sons. Et puis ensuite, dans ce travail au long cours que j'ai fait avec ces détenus, la parole est extrêmement libre. Ils ne se sentaient tenus par rien. Donc ils me disaient vraiment ce qu'ils voulaient. Et donc, toutes ces choses qui se passent en prison, qui sont certaines autorisées, certaines pas du tout, tous ces fonctionnements de la vie carcérale, ils me l'ont offert. Alors, j'en avais beaucoup plus, mais ça m'a permis de mettre ces détails qui donnent des effets de réel, à mon avis, dans le texte, oui.
Et vous avez en particulier visité le quartier des femmes dans les prisons? Parce qu'on se dit toujours de l'extérieur, quand on est un homme, dans le quartier des femmes, c'est compliqué, parce que votre roman se passe dans le quartier des femmes.
Absolument, mais ça, c'est de la fiction pure. Moi, je n'ai visité qu'une prison d'hommes.
Quel regard est-ce que vous portez, Alexandre Civico, sur l'idée même de la prison et de la vie carcérale? Je vous pose la question parce qu'à un moment donné, Dolores rencontre sa conseillère de probation, qui lui parle de projet de détention, donc ce qui est, on va dire, c'est la novlangue, mais elle sourit en parlant de projet de détention. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette expression-là, projet de détention?
C'est terrible, vous parliez de novlangue, je pense que c'est vraiment exactement ça, c'est une espèce de façon comme ça d'adoucir une réalité qui est atroce. Alors la conseillère de probation, il se trouve que j'ai assisté aussi à un entretien entre une conseillère de probation et des détenus qui venaient d'arriver. Alors, elle fait très bien son travail, elle applique aussi quelques recettes. Alors, qu'est-ce que je pense de la prison? C'est vraiment un vaste... c'est une question très, très vaste. Je pense qu'en tout cas, la prison telle qu'elle existe en France aujourd'hui, de ce que j'ai pu en voir, me semble pas vraiment adapté, au sens où on a des gens qui se retrouvent là, qui ont des problèmes psychiatriques, qui très peut-être mieux d'être soigné plus qu'incarcéré, des petits délits, des petits délinquants pour des petits trafics qui se retrouvent à faire du temps en prison avec des gens qui vont leur apprendre à faire pire et mieux. Enfin voilà, je pense que le système carcéral n'est pas très adapté.
Marion, la camarade de cellule de Dolores, dit « Ici, on n'utilise pas le futur, c'est un temps qui n'existe pas ».
C'est ce que j'ai appris, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est-à-dire que il y a le jour où on entre, et puis surtout ne pas se projeter, parce que ça peut être très long. Et finalement, ils ont été assez nombreux à me dire, on prend jour par jour. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer au travers.
Alors la vie en prison, c'est l'un des fils rouges du roman, Alexandre Civico. Un autre fil rouge, ce sont les inégalités sociales. Par exemple, la relation entre Antoine, donc le psychiatre, et sa petite amie Zélie, qui elle est restée à Paris. Donc il y a quelques scènes comme ça d'aller-retour entre Paris et la province. Parfois, ils s'échappent le temps d'un week-end pour passer quelques instants privilégiés, c'est pas tout à fait le mot, mais enfin, parce que parfois c'est quand même assez terrible, voire assez glauque, avec Zélie. Alors lui, il a grandi dans un petit pavillon, avec un père contremaître et une mère vendeuse en pharmacie, alors que les parents de Zélie, eux, sont extrêmement riches. Cette différence dans un couple, c'est un problème.
Ça ne devrait pas, mais c'est un problème pour Antoine. C'est un problème pour Antoine qui se vit comme ça, comme une espèce de transfuge de classe, et qui a en plus... qui est en plus un vrai problème avec ses parents qui, eux, ne se considéraient pas comme des petites gens ou comme des gens issus de la classe ouvrière. Quoi.
Oui, il a du mal avec ce qu'il considérait de la médiocrité du milieu où il a grandi. Et il ne veut surtout pas de l'horrible compassion de Zélie. Ce sentiment d'horrible compassion, là, c'est terrible parce qu'il est quand même assez pathétique, Antoine. Et en même temps, on peut le comprendre aussi, quelque part. On hésite, en fait, entre la répulsion et l'empathie pour ce personnage, je trouve.
Ah ben, ça me fait plaisir, puisque certains lecteurs avaient surtout de forme de dégoût pour ce personnage. Moi, je pense que c'est un personnage, effectivement, extrêmement, extrêmement triste et pour lequel on peut avoir de l'empathie. Oui. En fait, il ne veut pas de la compassion parce que il a fini d'espérer. Donc, il ne veut pas de tendresse. Il ne veut plus rien que son alcool et sa drogue, en fait.
Un dernier extrait du roman Dialogue au parloir entre Antoine, le psychiatre, et la tueuse en série Dolores. Voici comment cette dernière s'en prend au psychiatre.
Vous êtes comme tous les autres, ces bourgeois pour qui le peuple est sale s'il n'est pas héroïque.
Détrompez-vous, je viens d'un milieu modeste.
Je le sais, je l'ai vu tout de suite. Vous êtes aussi transparent que vous êtes symétrique. Vous avez l'intranquillité des traîtres. Mais vous avez tant léché l'écorce de leurs chaînes que votre langue est aussi lisse que la leur. Au point qu'en vous écoutant, parfois, on entendrait les points-virgules. Vous parlez comme eux.
Vous l'avez adoptée, vous aussi, cette langue.
Non, je la singe. Je l'imite. Elle m'est une langue étrangère. Ma langue intime est épaisse, brute. Ma langue vraie est celle de ma colère.
Je suis ce que l'on appelle un transfuge de classe.
Ça n'existe pas. Soit vous êtes devenu un bourgeois, soit vous êtes un traître. Et vous êtes un traître, vous le savez pertinemment. Votre classe d'origine vous tiraille comme une dent gâtée. Elle ne vous laisse pas en paix, vous hante. Votre lit est fraîchement refait, mais vos draps sont sales.
Ça, c'est du dialogue à la fois très oral, Alexandre Civico, et très écrit, très, très ciselé. Pour écrire chacun de vos chapitres, vous vous êtes donc mis dans la tête, dans les tripes, dans la langue aussi de chacun de vos narrateurs. Antoine et Dolores parlent-ils la même langue ?
Presque. Ils parlent... ce sont les deux faces d'une même langue, oui. Oui. Ça comptait beaucoup pour moi que on l'entend là, il y a quelque chose quand même d'un peu lyrique dans ces dialogues. Ça comptait beaucoup pour moi qu'ils aient cet aspect comme ça un peu théâtral. C'est une scène. qui se joue. Alors c'est une comédie et une tragédie en même temps, mais ils savent tous les deux qu'ils sont en train de la jouer. Il fallait que cette langue reflète un peu ça.
Chacun est dans un rôle d'ailleurs, de cette façon, parce que Dolores ne veut pas tout dire au psy, et le psy lui-même, eh bien, il sait qu'il a un rôle à jouer parce qu'il y a le regard de l'administration qui lui a fixé sa mission.
Voilà, c'est ça. Le psy fait semblant d'être un psy d'une certaine manière, mm-hmm. puisqu'il sait déjà exactement le rapport qu'il va rendre. Et puis Dolores, qui se méfie évidemment de cet homme qui représente le pouvoir, ne lui dit pas tout, et puis elle va essayer de le manipuler, elle va essayer de jouer avec lui.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Como el agua, Camarón de la Isla avec Paco de Lucía sur RFI. C'est une chanson qu'on entend dans votre roman, Alexandre Civico, chanson espagnole, chanson qu'aimait le grand-père de Dolores et qu'aimait aussi son ami Pedro Suasso, qui est le troisième personnage important du roman. Pourquoi cette chanson-là? Il y a une raison particulière?
Alors, c'est une raison qui m'est totalement personnelle, c'est-à-dire que j'adore Camarón de la Isla. Il se trouve que je suis, moi, d'origine espagnole et que je viens de la même ville à côté de Cadix, qui s'appelle San Fernando. Et donc voilà, c'était mettre quelque chose. C'est un moment, alors comme c'est un roman très dur, la musique me permet parfois de mettre des instants comme ça, un petit peu de tendresse. Et moi, ça me faisait du bien de mettre et cette chanson et ce chanteur de flamenco.
Merci en tout cas de nous l'avoir fait découvrir. Alors Pedro Suasso que j'évoquais, donc ami du grand-père de Dolores, c'est un ancien militant basque qui a fui le pays basque espagnol en 75 avec lui, et ensuite il est devenu prêtre des putes et des clochards, comme il dit, et c'est lui que Dolores appelle à la rescousse pour la cacher quand elle a peur de se faire arrêter. Alors lui aussi, il n'aime pas les bourgeois, et il revendique avec une certaine fierté la lutte armée contre la dictature franquiste. La cause nationaliste basque, il a toujours d'ailleurs chevillé au corps, même si c'est un peu calmé. Et à travers ses souvenirs, c'est aussi l'occasion pour vous, Alexandre Civico, de nous faire réfléchir à la figure du héros et à son pendant, la figure du lâche. Pour vous, qu'est-ce que l'héroïsme?
Alors là, je crois que c'est Brecht qui dit « malheureux le pays qui a besoin de héros ».
Mais un romancier, il fabrique les héros. Ou les anti-héros.
Moi, je crois que je ne fabrique pas de héros. Je crois que j'ai une méfiance envers la figure héroïque. Si on regarde bien, on saura que le personnage du grand-père de Dolores n'est peut-être pas un héros à hauteur de ce qu'on imaginait. Je me méfie un peu de l'héroïsme et de cette voilà, de cette manière de... Disons qu'il y a quelque chose de pas démocratique dans l'héroïsme. On a comme ça une espèce de leader, une espèce de figure qui peut-être nous porte, mais peut-être aussi nous empêche de réfléchir.
Vous préférez les anti-héros comme Antoine Petit ou les anti-héroïnes comme Dolores ?
Je crois, oui.
Alors Dolores, elle dit aussi, page 79, « Je ne demande pas à un écrivain de m'aider à m'évader, je veux qu'il me montre où se trouvent les barreaux. » C'est aussi ce que vous demandez à un écrivain ?
C'était un peu une petite, une petite réflexion personnelle. Il m'est arrivé d'en glisser ici ou là dans les propos de Dolores ou d'Antoine. Oui, c'est ce que j'aime en littérature. C'est voilà, comme déployer la noirceur du monde et qu'on nous la montre.
Oui, j'aime beaucoup cette phrase, hein. Je la répète, je ne demande pas à un écrivain de m'aider à m'évader, je veux qu'il me montre où se trouvent les barreaux. Alors cette discussion, elle a lieu autour d'un livre, un livre qui a visiblement beaucoup touché le personnage d'Antoine. Ce livre, c'est L'écume des jours de Boris Vian, que certains d'entre nous ont étudié en cours, mais qu'ils ont parfois aussi lu pour leur plaisir personnel. Ça a été votre cas, j'imagine, Alexandre Civico ?
Oui, j'ai beaucoup lu Vian jeune. L'écume des jours est un livre que j'ai beaucoup aimé, alors qui n'est pas resté dans mon panthéon de lecture en grandissant. Mais il y avait une espèce de clin d'œil. En fait, si on a le temps, l'idée m'est venue en découvrant un jour une serveuse dans un bar qui avait sur la poitrine des fleurs tatouées. J'ai pensé Nénuphar, j'ai pensé immédiatement à l'écume des jours.
Et au personnage de Chloé.
Et voilà, et c'est devenu le personnage de Chloé, absolument, qui a des Nénuphars tatoués sur la poitrine.
Voilà, et donc il est effectivement dans le roman, ce personnage qu'Antoine appelle Chloé, mais sauf erreur de ma part, on n'apprend jamais son véritable...
Non, on ne connaît jamais son vrai prénom.
Son véritable prénom. Alors, petit hommage à Chloé, avec la Chloé de Duke Ellington qui a inspiré Boris Vian. Duke Duke Ellington sur RFI. Merci beaucoup Alexandre Civico d'être venu nous voir. Dolores ou le ventre des chiens, publié, je le rappelle, chez Actes Sud. Je ne sais pas si vous avez choisi entre les deux termes de l'alternative. Bon, chacun en tout cas est libre de se faire sa propre opinion. Et après la violence de Dolores, après la douceur de Chloé, voici la mignonnerie Made in London. L'exposition qu'on va visiter à présent s'appelle Cute, comprenez chou ou mignon. Elle se tient à la Somerset House, un manoir au cœur de la capitale britannique. Marie Billon.
Un chaton blanc avec une corne de licorne sur la tête enroulée dans un arc-en-ciel avec des yeux tout timides, c'est l'affiche de cette exposition. Et à l'entrée, c'est plus d'une dizaine de déclinaisons de ce petit félin, qu'on imagine facilement très doux, qui accueille le visiteur. Chaton avec des ailes d'ange, chaton chevalier, chaton à chapeau.
C'est juste sympa, agréable à regarder, ça fait... Ça fait du bien de voir des choses mignonnes.
Oscar a 20 ans, elle est habillée très shootement, dit-elle, manquant de superlatif. Cheveux roses avec couronne à cornes en peluche sur la tête, sticker Hello Kitty sur les joues, gros cœur rose en pendentif, robe rose encore avec plein d'Hello Kitty à nouveau, sac à main qui n'en est pas un puisqu'il contient exclusivement une poupée Barbie et bottes en fourrure avec un lionceau et un chaton. J'aime ce qui est chou, dit Oscar. Tous les jours, cette jeune fille passe 2 heures à se transformée pour être mignonne. Alors cette exposition, elle la découvre les yeux, avec lentilles de couleur rose, grands ouverts. De la première salle dédiée aux chats, trop mignons pour ne pas être immortalisés depuis l'invention de l'appareil photo au 19e siècle, à la discothèque Hello Kitty. Où le but est de se baigner dans les paillettes et les lumières de la boule à facettes. Tout ça pour se sentir bien, se sentir fantastique. C'est la commissaire de l'exposition qui le dit, Claire Catral. Mais tout ce qui est mignon n'est pas innocent, précise-t-elle.
La mignonnerie est le produit de consommation par excellence. C'est sournois parce qu'on a envie de s'occuper de quelque chose qu'on trouve chou. C'est le produit lui-même qui nous donne envie de l'acheter pour pouvoir en prendre soin, lui donner une maison.
Le deuxième étage de l'exposition est dédié au côté sombre de la mignonnerie, comme le dit Claire Catral. Ce qui est mignon a l'air fragile, vulnérable, il fait appel aux émotions, il attendrit et déteint sur tout ce qui est aux alentours. Les communicants savent s'en servir, dit la commissaire.
Ce n'est pas nouveau. Hitler, par exemple, quand il est devenu chancelier d'Allemagne, avait besoin d'être plus populaire. Il a commencé à se faire photographier avec des fans et des petits-enfants. Les gens ont adoré. On en a fait des cartes postales qui se sont bien vendues. Les gens se sont dit que c'était un homme charmant, gentil et amical.
Enfant, ça a marché en Allemagne dans les années 30, mais la notion de mignon évolue-t-elle avec le temps et les pays? Hello Kitty a 50 ans aujourd'hui. La petite chatte blanche japonaise est à l'honneur dans cette exposition, une paire de chaussures avec son effigie à la place du talon et l'objet le plus original, noyé dans une flopée de coussins roses, de valises roses. La mignonnerie serait-elle genrée? L'une des inspirations de Claire Catral pour cette exposition est la chanteuse Anna Diamond. Une salle est dédiée à sa musique et à la pop asiatique.
Pour moi, mignon, c'est punk. C'est très élaboré et c'est rose. Ce que la mignonnerie et ma musique ont en commun, c'est l'excès. C'est un excès de rose, un excès d'Hello Kitty, un excès de ruban. Et ma musique aussi est excessive.
Et parfois, le trop chou devient bizarre, voire perturbant, comme ces robes à la fois enfantines et sexy qui sont exposées. Comme du chaton mignon qui a des griffes, il faut se méfier de la mignonnerie et de ce qui endort les sens et l'esprit en l'attendrissant.
Reportage de Marie Billon, exposition à découvrir si vous passez par Londres à la Somerset House. C'est jusqu'au 14 avril. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain avec Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. C'est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Denise Chalem à partir des chroniques de l'auteur algérien Kamel Daoud, auteur Actes Sud d'ailleurs. Une belle histoire d'amitié entre un écrivain et journaliste incarné par Thibaut de Montalembert et un musicien, Ibrahim Maalouf, qui s'essaie pour la première fois au théâtre. C'est à Paris au 13e art et vous m'en direz des nouvelles.